c'est notre travail. Nous, on vit pour passer de la musique et pour être le numéro un.
C'est un bateau ancré au large de Harwich, dans la mer du Nord.
Les DJ de la haute mer.
À la limite des eaux territoriales anglaises.
Bringing the time up to 4 minutes past 9, Radio London Time, the station with kicks on 266.
1967-1985. Le combat est-il le même ? Durant la seconde moitié des années 70, on semblait assister à un essoufflement du phénomène des radios offshore. Caroline luttait pour sa survie, se débattant contre la météo et la surveillance des côtes pour empêcher les ravitaillements. Les quelques autres radios offshore eurent à cette époque une existence éphémère. Mais en 1985, tout a changé. Caroline est revenue, apparemment plus solide que jamais. Et son retour a attiré la concurrence avec la naissance de Laser 558. Des opérateurs néerlandophones ont aussi lancé une nouvelle radio, Monique. On parle aussi d'autres projets pilotés depuis les États-Unis, comme par exemple la renaissance de Wonderful Radio London. Le gouvernement britannique a donc décidé de passer à l'offensive durant l'été 85. Ne pouvant intervenir dans les eaux internationales sans risquer d'être désavoué par la justice, il a décidé de faire le siège des deux bateaux radio et de les mettre sous surveillance rapprochée. Tout navire tentant d'entrer en contact avec le MV Communicator ou le Ross Revenge, qui sera repéré, fera l'objet de poursuites judiciaires s'il est britannique et sera signalé aux autorités compétentes si son pavillon est étranger.
Okay, this one is from Channel 4, and it's on page 509. A 99-foot surveillance ship is in position. Ooh, that sounds sexy. In the Thames estuary, as part of the government's crackdown on pirate radio stations off the Essex coast. There's no pirate stations out here. What is their problem? The ship will monitor broadcasts from Radio Caroline. How can they get first bill? And Laser 558, and watch for illegal deliveries of supplies. One is going to just have a fit. The Department of Trade said, now this is the one I love, these robbers of the airways.
La nouvelle offensive du gouvernement britannique est le résultat de pressions exercées par l'autorité indépendante de la radiodiffusion et par certaines radios de l'Essex qui déplorent la concurrence déloyale des navires radio, qui ne paient aucun droit de diffusion et dont les programmes ne sont évidemment soumis à aucun cahier des charges, contrairement aux radios légales. Pour résoudre la situation, le gouvernement britannique choisit la voie de l'interdiction plutôt que celle d'une légalisation. Même si le monopole de la BBC n'est plus, les radios privées qui ont été autorisées ont une couverture locale, alors que les émetteurs offshore diffusent sur une zone nationale et même transnationale. Le gouvernement va aussi justifier l'opération de surveillance en invoquant encore une fois la question du brouillage des fréquences de communication entre les gardes-côtes et les navires. Interférence qui mettrait des vies en danger. Les émetteurs marins perturberaient aussi les canaux de liaison des hélicoptères qui desservent les plateformes pétrolières et gazières de la mer du Nord. Les intéressés ont évidemment nié et réaffirmé leur détermination. En face, la porte-parole du DTI a répliqué « Nous voulons qu'ils comprennent que cette fois nous sommes sérieux et nous préférerions de loin qu'ils ne meurent pas de faim. Nous préférerions qu'ils se rendent. » Le 14 août 85, le Daily Star va faire un coup médiatique, comme on dit, en envoyant un journaliste apporter une cargaison de t-shirts, champagne et exemplaires du journal aux occupants du Ross Revenge et du Communicator. Il s'agissait, selon le titre de presse, de tester l'efficacité du coûteux dispositif de surveillance. Des photos de certains DJ arborant t-shirts aux couleurs du journal et buvant du champagne seront publiées le 15 août dans le Daily Star. Le lendemain, le titre de presse est informé qu'il est, tout comme son journaliste, poursuivi pour infraction au Marine Broadcasting Offense Act. Mais le Daily Star avait fait parler de lui. C'était l'essentiel.
Thanks to B. Phillips for the past 3 hours. I'm Dave Collins, I'm with you through till 3, live from the North Sea on 576 kHz, 24 hours a day. This is Caroline International. It's now 12 midday.
Radio Caroline News, brought to you by Newsweek magazine.
The dispute by British Rail guards over the introduction of driver-only trains has spread to the southern region today. Suburban services out of London, Victoria, London Bridge...
Le 18 août, le Sunday Times révélait que la surveillance effectuée par le Dioptrick avait déjà permis d'identifier 6 navires, dont celui affrété par le Daily Star, 4 autres ravitailleurs britanniques et un néerlandais. Le DTI déclencha aussi des perquisitions et interrogatoires auprès de certains annonceurs ayant pu acheter du temps d'antenne sur les 2 radios émettant en langue anglaise. Mais le ministère du Commerce et de l'Industrie était accusé d'organiser un blocus des 2 navires. Et la médiatisation de cette surveillance interrogeait aussi sur la publicité qu'elle faisait aux radios concernées. De toute évidence, elle était énorme. Sur le Communicator, on se réjouissait d'ailleurs de cette situation en pensant que cela attiserait l'intérêt des annonceurs. Le 21 août, le Communicator leva l'ancre et prit position à plus de 10 000 du Ross Revenge. Du coup, ne pouvant plus observer les 2 navires radio simultanément, le Dioptrick Surveyor leva aussi l'ancre et suivit le Communicator, mais resta à la limite des eaux territoriales. 2 jours plus tard, le MV Communicator revenait à son mouillage d'origine, talonné par le Dioptrick Surveyor. Que penser du choix opéré par le DTI de demander au Dioptrick de suivre le Communicator plutôt que de rester en observation près du Ross Revenge ? Il y a 2 possibilités. Soit le ministère soupçonnait un déplacement du Communicator en vue d'un important ravitaillement qui ne se produisit pas. Soit le Communicator était davantage ciblé que le Ross Revenge. Mais pour quelle raison ? Il était peut-être plus facile de s'attaquer à Laser 558 qu'à Radio Caroline. La pionnière des radios offshore britanniques était appréciée, tant par son histoire que par sa ténacité. Et même si la Grande-Bretagne est à cette époque gouvernée d'une main de fer par une certaine dame de fer, il était peut-être préférable de ne pas s'attaquer aux 2 navires en même temps et de tenter d'abord de neutraliser le MV Communicator. D'autant que, contrairement à l'équipe de Caroline, qui ne fait presque pas mention de l'opération de surveillance sur l'antenne, Laser 558, au contraire, s'est emparé du sujet pour tourner le DTI en dérision de façon régulière. C'est le DJ Charlie Wolf qui a baptisé l'opération Eurosiège 85, c'est ainsi qu'on la surnomme maintenant. À partir de la mi-août, la station va diffuser sur l'antenne des promos de l'Anorak DTI. Pour rappel, Anorak est le surnom que l'on donne aux passionnés de radio offshore. Depuis qu'Andy Archer, sur le Mi Amigo, avait remercié le nombre important d'Anorak, les fans, venus rendre visite au navire et à ses occupants durant l'été 1973. Voici une promo assez drôle, il faut le dire, où le DTI est raillé en Anorak DTI qui propose la plus belle collection de photos des navires radio et de leurs DJ.
Day, August 21st, 1400 hours GMT, not deep North Sea. The MV Communicator goes under steam to a new location, and in the process comes to within a quarter mile of the Ross Revenge, the closest the ships have ever been. A moment in free radio history, and only one free radio organization is there to capture it on film. Anorak's DTI. Anorak's DTI with the exclusive Laser and Caroline Together Forever poster. A large full-color poster on heavy paper stock. A stunning photo of the Communicator and the Ross Revenge together from Anorak's DTI. Order your posters today and check out all the other items from Anorak's DTI. They have the largest collection of photos of all your favorite offshore DJs, including Tommy What a Guy Rivers, Fergie McNeil, Liz West, Johnny Lewis, Joan L., Peter Phillips, and the ship's pets, Raffles and Seawolf. Anorak's DTI. Hey, everyone's an Anorak at heart, and at 50,000 quid a month, we have to pay for this somehow. Anorak's DTI.
Dans le même ordre d'idées, un 45 tours d'un mystérieux groupe appelé les Moronic Surveyors va être publié. Le titre du morceau est « I Spy for the DTI ». Des membres du groupe Sat Café et des DJ de la station sont à l'origine de cet enregistrement.
Yeah!
ministère du Commerce et de l'Industrie tient bon. Et courant septembre, des panneaux font leur apparition dans les ports les plus à même de servir de point de chute aux ravitailleurs. Ils informent les plaisanciers et les pêcheurs des conséquences encourues en cas d'infraction. Même si à l'écoute de Laser 558, on a l'impression que la croisière s'amuse, et en particulier lorsque les DJ se moquent du Dioptric Surveyor, sur le Communicator, ce n'est pas vraiment la fête. Plusieurs DJ ont décidé de quitter le navire car ils n'ont pas été payés. Ils décrivent aussi que le bateau n'a pas été approvisionné en eau douce depuis plus d'un mois. La radio, qui avait cessé d'émettre 24 heures sur 24 depuis plusieurs semaines, va encore réduire son temps d'émission. Le 19 septembre, on apprenait qu'il ne restait plus que 3 DJ à bord du Communicator et que ceux-ci étaient contraints d'assurer des tranches horaires de 6 heures chacun afin de maintenir la radio en onde pendant 18 heures par jour. Mi-octobre, de nouveaux DJ furent recrutés, mais d'autres sont encore partis. Parfois, Laser 558 n'émettait que 4 ou 6 heures dans une journée. Ces problèmes, conjugués à un générateur défectueux, firent que la station dut interrompre ses émissions pendant à peu près la moitié du mois d'octobre. Du côté du ministère, on commence à percevoir une certaine fébrilité. Certes, les responsables de l'opération de surveillance disent qu'elle va se poursuivre, mais son coût et son impopularité commencent à peser. Et puis les navires radio sont toujours là.
Laser 558, perfect wave. Sounds like a line an accountant might use on you. Better watch out. That's Greedy Politi, new music. Chuck Hanna with you. And hang on, I'm going to blast off and hit you with Nick Kershaw next.
Ladies and gentlemen, it's going to happen. The greats of rock and roll are joining together for one unbelievable tour of the UK. Rick Nelson, Del Shannon, Bobby B, The Marvelettes, Frankie Moore, and the incredible Bo. All together in concert. Saturday night, November 2nd at the all-new Scottish Exhibition Centre, Glasgow. Sunday, November 3rd, Capital Theatre, Aberdeen. Tuesday, November 5th, De Montfort Hall, Leicester. Wednesday, November 6th, the Mayfair, Swansea. Thursday, November 7th, the Birmingham Odeon. Friday, November 8th, City Hall, Newcastle. Saturday, November 9th, Queen's Hall, Leeds. Sunday, November 10th, the Apollo Manchester.
The Daily Mail, lundi 21 octobre 1985. Campagne de blocage des radios pirates. Le gouvernement est prêt à lancer une opération d'envergure pour tenter de faire taire les stations de radio pirates de la mer du Nord. De hauts responsables du ministère du Commerce et de l'Industrie ont été informés qu'une telle opération est faisable et pourrait être justifiée par le droit international. Cependant, toute tentative d'arraisonnement des stations pirates Radio Caroline et Laser 558, ancrées en eau internationale à 27 km des côtes de l'Essex, est considérée comme un dernier recours. Les ministres envisagent des plans secrets pour brouiller les émissions de ces stations offshore populaires, qui menaceraient des vies en mer en interférant avec les signaux des balises de sauvetage et des aides à la navigation. Le problème est que les tentatives de brouillage pourraient également affecter les services d'urgence et les émissions radio légales que le gouvernement s'efforce de protéger. Ces nouvelles mesures sont envisagées suite à l'échec de la surveillance continue des navires pirates pour faire taire les intrus sur les ondes. Le ministère du Commerce admet que la surveillance des deux bateaux de radio et le signalement de toute tentative de contrebande de ravitaillement coûtent 1000 livres par jour. L'envoi de carburant et de vivres à ces navires constitue une infraction en vertu de la loi sur la radiodiffusion maritime. Et toute personne prise en flagrant délit encourt jusqu'à 2 ans de prison. À ce jour, plus de 20 infractions impliquant des bateaux au large des côtes de l'Essex et du Suffolk ont été signalées par les observateurs à bord du navire espion, qui prennent des photos pouvant servir de preuve contre les contrevenants. 3 hommes ont récemment été condamnés à une amende de 500 livres chacun à Thousand pour avoir fourni des centaines de litres de gasoil au Ross Revenge, le bateau de Radio Caroline. Le navire espion du ministère est opérationnel depuis août pour un coût de plus de 25 000 livres par mois. L'article du Daily Mail montre que la marge de manœuvre du gouvernement n'est pas importante. Le brouillage des émetteurs est délicat et l'arraisonnement des navires est illégal. Reste à persuader le gouvernement panaméen de retirer leur pavillon aux deux navires. Le 29 octobre 1985, le ministère des Affaires étrangères fait une demande officielle au gouvernement du Panama. Mais celui-ci, pressentant peut-être cette demande, avait ordonné à son bureau londonien de la marine marchande de refuser toute discussion sur ce sujet. Le 1er novembre, le Dioptrick Surveyor fut remplacé par le Guardline Tracker, un navire nettement plus imposant et plus à même de résister aux conditions hivernales qui se profilent. Le DTI ne semblait donc pas prêt à renoncer. Pour justifier la poursuite de l'opération, un porte-parole du ministère expliqua que le signal émis par les deux radios était tellement puissant qu'elles se brouillaient mutuellement, ce qui n'a jamais été constaté. Il ajouta que de nombreuses plaintes de pilotes d'hélicoptères desservant les plateformes de la mer du Nord avaient été reçues. Au lieu de capter les instructions de navigation leur permettant d'atterrir en toute sécurité, ils entendent de la pop.
Jethro Tull, the original masters of rock.
In the shuffling madness of the locomotive breath.
Original Masters, the best of Jethro Tull, on album and cassette. Add it to your collection. Don't buy a new sofa, settee or a three-piece suite.
Le projet de relance de Wonderful Radio London va connaître un dernier coup d'éclat, si l'on peut dire. John England, promoteur de l'opération, va expliquer dans une interview à la presse spécialisée que le navire ne va pas héberger un, mais trois programmes. Il y aura Wonderful Radio London, qui diffusera des programmes musicaux allant du style adulte contemporary à la country, à raison de tranches horaires de 4 heures. La seconde radio sera un programme religieux avec de la musique dite traditionnelle. Et le troisième programme rediffusera les contenus des deux premiers. Pour superviser le tout, la Four Freedom Foundation a été créée et un magazine sera également édité. C'était très ambitieux, trop sans doute, car rien ne se concrétisera. Wonderful Radio London ne renaîtra pas.
Wonderful Radio London.
Big L.
Dans la nuit du 4 au 5 novembre 1985, les conditions météo se dégradent en mer du Nord. Le générateur électrique du communicator tombe en panne. Les DJ tentent de contacter la direction de la station à terre pour réclamer une assistance. Le matin, les programmes débutent normalement. Mais à 8h30, après une série de disques sans animation, Craig Novak lança un message codé à l'intention de la direction. Le message fut répété à plusieurs reprises.
Hiring Car and Fame on Laser 558, 17 minutes past the hour now. This is Craig Novak and a special message now. Well, let me tell you, for those who might be interested, Yankee 3 is zero. Uniform, repeat uniform. Romeo 2, repeat Romeo 2. November, repeat November. Channel 16 listening. If you're at all interested, we'll repeat that message again in about 10 minutes. Here's Blancmange on Laser 558.
Les programmes se poursuivirent, mais les interventions des animateurs se faisaient de plus en plus rares. À 12h18, John Leeds prend l'antenne pour la dernière fois.
Laser 558, ready for the world, and oh Sheila.
Like they always say, it's good for the geese, it's always good for the gander. Oh, sailor.
À 12h21, le disque se termine et l'antenne devient silencieuse.
Oh, Sheila, let me love you till the morning comes here. Oh, oh, Sheila, you know I want to be the only one. Here we go.
Le lendemain, le MV Communicator leva l'ancre et pénétra dans les eaux territoriales, escorté par le Guardline Tracker et une vedette de la police. Il fit son entrée dans le port d'Harwich. Immédiatement, deux créanciers firent savoir qu'ils réclamaient la saisie du bateau. L'un d'eux était Paul Rusling, qui avait participé au projet à ses débuts. L'autre était le représentant de la société qui avait vendu le MV Communicator. Les 7 DJ américains et 4 membres d'équipage britannique restèrent à bord dans un premier temps. et furent interrogés par des agents des différents ministères concernés. Un article du Times nous en apprend davantage sur les raisons de la capitulation de Laser 558. The Times, jeudi 7 novembre 1985. La vie en mer est trop difficile pour une radio pirate. La station pirate de musique pop de la mer du Nord, Laser 558, a finalement été contrainte de quitter son ancrage la nuit dernière, victime d'une épidémie de gastro-entérite et d'une tempête de force 9. La police de l'Essex attendait sur le quai de Harwich pour interroger l'équipage du MV Communicator, un navire américain alors qu'il rejoignait péniblement la côte. Escorté par un navire de surveillance gouvernementale, la plupart des membres d'équipage et 5 disc-jockeys américains étaient malades. Tous étaient encore à bord. Le navire étant amarré sur la rivière Stour, à 1 km du port de Harwich. 3 tonnes d'eau douce ont été pompées à bord pendant que les douanes, la police et les représentants du ministère du Commerce et de l'Industrie menaient l'enquête. En raison de la forte houle, de la panne du générateur et du manque d'eau douce, il était devenu presque impossible pour le navire de rester en mer. Le ministère du Commerce et de l'Industrie surveillait le navire depuis 3 mois, rendant la vie à bord de plus en plus difficile. Car il est illégal pour les entreprises britanniques de fournir des approvisionnements. Un radio amateur a rapporté que le capitaine, à bord depuis 3 mois, avait signalé par radio une quasi-mutinerie. L'équipage aurait souffert du scorbut et d'une intoxication alimentaire. Monsieur John Catlett, directeur de Laser 558, a été autorisé à monter à bord avec un capitaine remplaçant et un avocat pour s'entretenir avec les membres d'équipage. Il serait impatient de remettre le navire en mer et de reprendre ses émissions. Laser 558 opérait hors des eaux territoriales britanniques à 12 milles nautiques des côtes de l'Essex. Les émissions ont débuté vers la Grande-Bretagne et l'Europe occidentale en mai 1984. Un sondage réalisé en novembre dernier a révélé que 5 millions de personnes au Royaume-Uni l'écoutaient. Des centaines de défenseurs de la radio libre se sont rassemblés à Harwich hier soir pour pleurer la disparition du navire. Radio Caroline, désormais la dernière des radios pirates, a adressé ses vœux de rétablissement à ses collègues capturés. Mais le Rose Revenge, navire base de Caroline, était lui aussi à court de carburant. Et un haut fonctionnaire du ministère du Commerce et de l'Industrie a déclaré « C'est leur tour. Pour nous, il n'en reste plus qu'un ». Pourtant, le même jour, comme un pied de nez à cette déclaration, Radio Caroline s'empara de la fréquence 558 mètres laissée par sa concurrente. La fréquence aurait dû être utilisée par la BBC pour son programme régional Radio Essex. Mais le ministère des Télécommunications avait accusé la défunte Laser 558 de brouiller les liaisons entre les navires et les gardes-côtes. Ainsi, profitant du flou autour de cette fréquence, Caroline s'en empara.
Await us, we'll head there with the jam. This is Move On Up on Caroline 558.
Le DTI triomphe donc et considère que la capitulation de Laser 558 est la preuve de l'efficacité de la surveillance permanente aboutissant à un blocus. Si le Communicator a incontestablement durement souffert d'un manque d'approvisionnement, la radio a aussi, malgré son succès, totalement échoué à attirer des annonceurs, et en particulier américains. Le ministère des Transports va émettre des doutes sur l'état du MV Communicator et en conséquence proférer une interdiction temporaire à la navigation. Dans le même temps, les créanciers vont obtenir une ordonnance d'immobilisation du navire jusqu'à ce que la société gérante règle ses dettes. John Catlett, qui dirige la permanence britannique de Laser 558, décida de maintenir la tournée du Laser Roadshow en activité et engagea immédiatement des discussions avec Radio Caroline pour relancer Laser 558 la nuit depuis le Rose Revenge. Mais les discussions n'aboutirent pas, apparemment faute de financement. Le 8 novembre, le ministère des Transports confirma que le MV Communicator n'était pas conforme à la navigation et dans le même temps vint ajouter son nom à la liste des créanciers. réclamant à Laser 558 les frais de l'assistance que le Guardline Tracker avait apporté au navire radio lors de son retour au port. Le bateau du ministère était déjà reparti en mer, reprenant la surveillance du Ross Revenge. Assisté par des vedettes rapides de la police de l'Essex, l'arrestation de plusieurs ravitailleurs fut organisée, y compris des bateaux d'auditeurs venus rendre visite au Ross Revenge. Mais à la surprise générale, le DTI annonça le 13 décembre la fin de l'opération de surveillance en mer du Nord. Le ministre du Commerce, Geoffrey Pattis, expliqua que ses agents avaient identifié de nombreux navires ayant contrevenu à la loi et espéraient qu'après l'arrêt de Laser 558, Radio Caroline allait elle aussi cesser d'émettre. L'opération aura duré 126 jours et coûté plus de 100 000 livres aux contribuables britanniques.
Wasn't too sure about that when I first heard it. It really does grow on you. The Roaring Boys and House of Stone. Bobby Womack, before that we went album tracking with his current LP and played So Many Rivers. 18 minutes to 9 o'clock, you're listening to Caroline on 558, music from the North Sea. Now, if you were watching, well, pretty well, any of the television news broadcasts yesterday, well, you'll be aware right now that there's only one radio station broadcasting from the North Sea now. There used to be two, Laser 558, but that's now moored up in Harwich Harbour, which is very sad, but I'm sure a lot of our friends and family have probably, when they saw all that going on, we're a little worried about what exactly was going on with us as well. Well, Caroline's still here. Everyone's safe and sound, all hunky-dory. And still knocking out the music, which we intend to keep on doing. This is Southside Johnny and the Asbury Dukes. Actions speak louder than words.
C'était Les DJ de la Haute Mer, 36e épisode.
It took some time to find love.